Je remercie les amis de Saint-François-de-Sales pour leur invitation à vous donner une conférence sur le thème « Le Vatican et le schisme oriental aujourd'hui ». Nous devions nous trouver dans le Valais pour la correction d'une réédition d'un noble ouvrage sur l'Eucharistie et le sacerdoce, et puisque on a fait un long voyage, autant rester longtemps, voilà pourquoi nous sommes ici ce soir. Le sujet est d'actualité, car il faut bien dire que le Vatican à l'heure actuelle fait beaucoup en vue d'une certaine union avec les communautés schismatiques d'Orient. Peut-être que dans l'exposé m'échappera l'expression « Église orientale », sous-entendu schismatique, mais il faut bien se garder de les appeler « Église », car il n'y a qu'une Église, l'Église catholique. Toutes les autres sociétés religieuses sont des communautés religieuses et non pas églises. Hélas, le vocabulaire contemporain attribue la qualification d'église à ce qui ne mérite pas d'être appelé tel. Donc, pardonnez-moi si cela m'échappait, parce qu'évidemment, je vais lire plusieurs textes qui parle ainsi. Merci beaucoup de ces communautés. Commençons par rappeler la doctrine catholique, la doctrine traditionnelle sur la mission de l'Église et sur le schisme. Évidemment, il ne faut citer Saint Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il s'apprête à partir, à monter au ciel, c'est l'ascension, et il dit à ses apôtres, « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. » L'Église, par définition, est missionnaire. Et l'Église aussi, par définition, repose sur le pape. Et moi, disait Jésus-Christ à Pierre, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église catholique, vous le savez, et l'Église de Jésus-Christ, et elle se reconnaît par rapport à toutes les autres communautés religieuses par des notes qu'elle seule possède. Non seulement elle seule possède toutes les notes que nous énonçons dans le credo, mais elle seule possède chacune d'elles parfaitement. L'Église est une, c'est-à-dire qu'elle est un seul corps sous une seule tête, Jésus-Christ, caput ecclésiae. Cette unité lui appartient essentiellement. L'Église est catholique, c'est-à-dire universelle. Elle est faite pour tous les hommes de tous les temps, qui sont tous appelés à y entrer et à y demeurer, car en dehors d'elle, personne ne peut être sauvé. L'Église est apostolique, elle est inchangée et la même depuis les apôtres. Non seulement elle est semblable à celle des apôtres, même foi, même sacrement, mais elle est numériquement la même, parce qu'elle est constituée par une chaîne ininterrompue dans la légitimité de pasteurs et de fidèles. Notez bien l'expression dans la légitimité. Il ne suffit pas pour un évêque de remonter par une chaîne ininterrompue à un apôtre pour être apostolique. Encore faut-il que ce soit dans la légitimité. Il faut donc distinguer entre apostolicité matérielle, le fait que l'on remonte à un apôtre, et l'apostolicité formelle, le fait qu'on y remonte dans la légitimité. On verra que cette distinction est importante pour aborder le schisme oriental. Ajoutons que l'Église est indéfectible, c'est-à-dire qu'elle a les promesses de la vie éternelle et qu'elle restera jusqu'à la fin du monde identique à elle-même, sans changer. Par conséquent, elle est parfaite en elle-même et elle le reste. Ajoutons enfin qu'elle est infaillible, c'est-à-dire que dans l'exercice de sa fonction d'enseignement, de sanctification, de gouvernement, en raison de l'assistance divine, elle ne peut ni se tromper, ni nous tromper. J'ai sous les yeux le plan de du thème de l'unité de l'Église que proposent les moines de Solesmes, fidèles à l'époque à la tradition. Je me contente de survoler ce plan et de donner un commentaire chaque fois qu'il le faudra en vue de notre sujet. L'Église est une, Jésus-Christ a voulu cette unité, c'est celle que Jésus-Christ a voulu, et non pas celle prônée par les schismatiques ou bien par les panchrétiens. Panchrétien veut dire la réunion de tous ceux qui se rattachent de près ou de loin à Jésus-Christ. L'Église est une et son unité a pour lien l'union de tous ses membres avec un même chef, le Christ. L'unité se fait par l'Esprit Saint, l'unité se fait aussi par la charité qui vient de l'Esprit Saint. Et cette unité sous un chef unique, le Christ, passe aussi par l'autorité d'un chef visible unique, le pape. L'Église est une dans la communauté des mêmes biens spirituels, la foi, l'espérance, la charité, une par la participation au même sacrement, même baptême, même messe, une aussi par l'obéissance aux mêmes lois. Pensons aussi aux lois liturgiques. Cette unité peut être rompue, non pas dans l'Église elle-même, mais par certains qui alors quittent l'Église. Un membre séparé de l'Église ne peut appartenir à la tête ni un corps resté un tout en étant divisé en fragments. Toute division est hors de l'Église. En elle-même, l'Église ne peut pas être divisée. Elle est une. Ceux qui sortent de l'Église peuvent en être exclus par l'excommunication. Ils peuvent se séparer de l'Église par le schisme ou par l'hérésie, voire l'apostasie. Les communautés religieuses séparées de l'Église et de son chef, dont du Christ et du pape, ne sont ni membres ni partie de l'Église. Ni membres ni partie de l'Église. Parce que ces communautés sont détachés visiblement de l'unité. C'est le cas des églises orientales schismatiques qui sont en contradiction avec leurs ancêtres qui firent autrefois partie de l'Église. Et cette séparation ne peut pas être imputée à l'arbitraire des pontifes romains. Ceux qui se séparent de l'Église ne nuisent pas à l'Église en elle-même, car elle est sainte, elle est une. Ils se nuisent à eux-mêmes. La séparation avec l'Église romaine ne nuit qu'aux dissidents, elle stérilise leur action, les divise entre eux, les prive du fruit des sacrements même valides et du droit d'administrer les sacrements licitement. Chez les hérétiques, les schismatiques, la messe peut être valide. Il y a donc possibilité de présence réelle, mais les schismatiques en tant que tels, s'ils reçoivent la Sainte Eucharistie, n'en reçoivent pas les fruits. Ils sont privés des fruits des sacrements. Que faire à l'égard des églises séparées, des communautés séparées? Sous peine de coopérer à la séparation, les catholiques doivent éviter de minimiser les divergences qui les séparent des hérétiques et des schismatiques. Éviter de se mettre sous leur conduite, éviter de communiquer avec eux dans les sacrements. Mais ils doivent les embrasser dans la charité fraternelle, charité à l'égard des autres, prier pour leur retour, retour attendu du pape et de l'Église elle-même. Ajoutons que le retour à l'Église romaine de ces communautés séparées est la seule voie possible pour la rentrée dans l'unité. Celle-ci ne pouvant exister que dans l'obéissance à l'Église et dans l'acceptation totale de toute sa doctrine. Aussi l'Église n'a-t-elle pas de perfectionnement à attendre pour elle-même de ce retour? Rappelons, la séparation avec l'Église romaine ne nuit qu'aux dissidents. Donc il n'y a qu'eux qui profitent du retour. Ce retour ne demande à ceux qui reviennent le sacrifice d'aucune vraie valeur. Autrement dit, ce à quoi ils renonceraient en retournant à l'Église ne sont pas de vraies valeurs. Autrement dit, il n'y a pas de vrai sacrifice à y renoncer. Il faut donc se méfier des mouvements qui, sous prétexte de charité, sacrifieraient au moins partiellement la doctrine. Je voudrais vous lire maintenant quelques textes de la tradition au sujet de la volonté de réintégration des dissidents dans l'Église. Le pape Pie IX condamne l'association For the Promotion of the Union of Christendom, l'association pour la promotion de l'union des chrétiens, de tous ceux qui se rattachent plus ou moins à Jésus-Christ. Pie IX dit ceci, en fait c'est une lettre du Saint-Office sous Pie IX en 1864. Le fondement sur lequel s'appuie cette association est tel qu'il renverse de fond en comble la constitution divine de l'Église. Elle suppose essentiellement que la véritable Église du Christ est composée pour une part de l'Église romaine, répandue et étendue dans le monde entier, pour une part du schisme de Phocius, je dirais qui est Phocius, et de l'hérésie anglicane, pour lesquelles, tout comme pour l'Église romaine, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, disent-ils. Donc, le pape IX condamne cette prétention d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ lorsqu'on est schismatique ou hérétique. L'Église romaine ne serait qu'une part de l'Église de Jésus-Christ. Le texte continue. L'Église catholique est donc une, d'une unité remarquable et parfaite sur toute la terre et parmi toutes les nations, de cette unité dont le principe, la racine et l'origine indéfectible sont Pierre, chef des apôtres, l'autorité souveraine de ses successeurs dans la chaîne de Rome, dans la chair de Rome et son origine supérieure. Dans l'Église, malgré les dissidents, est toujours une. Le pape Pie XI maintenant, en janvier 1928, dans l'encyclique Mortalium Animos, parle des congrès pour l'unité. Le siège apostolique n'a jamais permis à ses fidèles d'assister au congrès des acatholiques, des non-catholiques. L'union des chrétiens ne peut être procurée autrement qu'en favorisant le retour des dissidents à la seule et véritable Église du Christ qu'ils ont eu jadis le malheur d'abandonner. Le retour, disons-nous, à la seule véritable Église du Christ, bien visible à tous les regards, destinée par la volonté de son auteur à demeurer telle qu'il a lui-même instituée pour le salut commun des hommes. Pie XI continue. Personne ne se trouve et personne ne demeure dans cette unique Église du Christ à moins de reconnaître et d'accepter avec obéissance l'autorité et la puissance de Pierre et de ses successeurs légitimes. Est-ce qu'ils n'ont pas obéi à l'évêque de Rome, pasteur souverain des âmes, les ancêtres de ceux qui aujourd'hui professent les erreurs de Phocius, encore lui, et des novateurs? Des fils ont hélas déserté la maison paternelle, sans que pour cela la maison s'effondre, car elle avait l'appui de l'assistance divine. Qu'ils reviennent donc au Père commun, oubliant les insultes proférées jadis contre le siège apostolique, il les accueillera avec toute sa tendresse. Le pape Pie XII maintenant, dans un avertissement de la suprême congrégation du Saint-Office, le 5 juin 1948, Pie XII donc, interdit dans ce document aux catholiques de participer à un congrès organisé par des dissidents, le congrès, n'est-ce pas, d'Amsterdam, du 22 août au 5 septembre 1948. Et ce qui est interdit, c'est d'y participer sans l'autorité du Saint-Siège et aussi comme représentant de l'Église. Je vous lis le commentaire de ce document. Ce qui rend a priori impossible toute participation de l'Église de Rome en qualité de membre à ce genre de réunion, c'est le présupposé théologique selon lequel l'Église serait une fédération de communautés chrétiennes aux doctrines souvent divergentes, mais égales en droit et à la recherche d'une plus grande unité. Donc il n'est pas absolument interdit aux catholiques d'assister à de tels congrès, pourvu que le Saint-Siège le leur permette, mais s'ils y assistent, ils n'y vont pas en tant que représentants autorisés de l'Église romaine. Ils ne viennent pas comme un groupe à égalité avec un autre groupe, c'est ce qu'il faut éviter. Or, dans un document récent que vous pouviez lire dans la documentation catholique du 19 juin 1994, un document qui a pour titre « La formation écuménique, réflexion et suggestion, étude du groupe mixte de travail entre Église catholique et le Conseil écuménique des Églises », nous lisions ceci. Au début de ce siècle, l'histoire de l'œcuménisme a reçu une forte impulsion grâce à la Conférence missionnaire mondiale d'Édimbourg en 1910. En 1920, le patriarcat œcuménique a publié une encyclique proposant la création d'une communion d'églises au pluriel en dépit des différences doctrinales existant entre celles-ci. Un autre appel à l'impératif œcuménique dans les temps modernes est venu de la réunion tenue à Amsterdam en 1948, au cours de laquelle le COE a été officiellement constitué, le Comité œcuménique des Églises. On présente donc dans ce document récent, signé par un cardinal, Monseigneur Clark, on présente donc cette réunion d'Amsterdam à laquelle Pie XII a interdit que les catholiques y participent. On la présente donc comme un élément de la marche vers l'œcuménisme tout à fait recommandable. Ceci pour montrer comment, à l'heure actuelle, on s'oppose à la pratique traditionnelle de l'Église dans ce domaine. Le pape Pie XI, après le pape Pie IX, ont nommé un certain Fossius. Eh bien, survolons rapidement, si vous voulez bien, les grandes hérésies orientales à l'origine du schisme oriental. Tout le monde connaît Arius, hérésiarque, qui est mort vers l'an 336. Arius était prêtre. Son hérésie se résume finalement dans la négation de la divinité du Fils. Arius a nié la doctrine de la consubstantialité du Père et du Fils. Et vous savez que cette hérésie a eu des succès d'années. En refusant le homo ousios, le consubstantiel, le Père et le Fils sont consubstantiels. Il ne suffit pas de dire et qui sont de même substance, de même nature, mais il faut dire que eux deux ne forment qu'une substance divine, c'est ça, consubstantiel. Certains voulaient la formule homo iousios, il y avait un iota de plus. Homo iousios ne signifie que substance semblable, c'est insuffisant. Deux pains, un ici, un là, sont de substances semblables, ils ne sont pas un seul pain. Or, il n'y a qu'un seul Dieu. Le seul terme catholique, c'est donc homo ousios, consubstantiel. D'autres voulaient simplifier encore plus en parlant de homo ios, de similitude, mais non pas substantiel. Donc, hérésie arienne et ses succès d'années. Arius, l'arianisme, a été condamné à Nicée, au Concile de Nicée, en 325. Autre hérésiarque, Nestorius, patriarche de Constantinople, mort en 451. Lui a nié que la Vierge Marie soit la mère de Dieu. Il a refusé le terme Théotokos, n'admettant que le Christotokos. Il admettait que Marie soit la mère du Christ, mais non pas la mère de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il séparait les deux natures du Christ, divine et humaine. Il les séparait, alors qu'elles sont unies dans l'unique personne de Jésus-Christ. Retenez cela. Nestorius est pour Christotokos, mère du Christ, mais non pas Théotokos, mère de Dieu. Eutychès maintenant. Eutychès est l'auteur du monophysisme, à savoir que le Christ n'a finalement qu'une seule nature. Le Christ a deux natures, l'humaine et la divine, qui sont une dans une seule personne. Eutychès niait les deux natures pour ne retenir que la divine. En fait, l'humaine était absorbée jusqu'à disparaître, absorbée par la nature divine. C'est le monophysisme qui a donné naissance au monothélisme, l'hérésie qui ne veut voir en Jésus-Christ qu'une seule volonté, deux natures d'accord, mais pas deux volontés. Or, le Christ a deux natures, il a donc deux volontés, l'humaine et la divine. Les monothélistes, avec Héraclius Ier, un empereur byzantin, les monothélistes refusent donc qu'il y ait en Jésus-Christ deux volontés, l'humaine et la divine. Phocius maintenant, dont le pape Pie IX et le pape Pie XI ont parlé. Phocius est à l'origine du schisme d'Orient. Ce qu'il a caractérisé, c'est de refuser le filioque du credo. Nous disons que le Saint-Esprit procède à la fois du Père et du Fils, du Père et du Fils. C'est une formule qu'on ne trouve pas au Concile de Nicée. Voilà pourquoi Phocius l'a refusé. Enfin, ce fut un prétexte. Il faut dire que la formule n'a été admise officiellement par Rome qu'au XIe siècle, mais on y croyait, bien sûr, dès le début. Retenez ça donc, le filioque refusé par Phocius. Phocius donc est à l'origine du schisme d'Orient qui sera consommé par le patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire, qui donc au XIe siècle va être à l'origine de la séparation qui dure des communautés d'Orient avec l'Église catholique romaine. Ajoutons que les communautés orthodoxes schismatiques, celles qu'on appelle telles aujourd'hui, ne reconnaissent que sept conciles écuméniques, les sept premiers. Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, Constantinople encore, le troisième, et Nicée 2. On les appelle orthodoxes, d'après le mot grec, de la droiture. Ils n'ont pas voulu aller au-delà du concile de Nicée 2, et cependant, ils sont plus hétérodoxes qu'orthodoxes. Il est intéressant d'étudier, d'après saint Thomas d'Aquin et la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, ce qu'est le schisme et comment il faut se comporter avec les schismatiques et quels sont les pouvoirs des schismatiques. Saint Thomas d'Aquin, la question sur le schisme, qui est une rupture de la charité, c'est la Secunda Secundae, question 39, article 1. Le schisme, dit saint Thomas d'Aquin, est le fait de se complaire dans la séparation avec l'assemblée avec laquelle, par ailleurs, on est ou on pourrait être en uniformité d'opinion, de rite et de culte, tandis que l'hérésie a une opinion qui diffère de ce que croit l'Église catholique. Donc, à strictement parler, le schisme ne porte pas sur une doctrine. Il porte sur l'union dans l'Église. L'hérésie, elle, s'oppose à une vérité de foi. Mais, comme le dit par ailleurs saint Thomas d'Aquin, le schismatique devient rapidement hérétique parce que, n'obéissant plus au pontife romain, il finira par ne pas adhérer à de nouveaux dogmes de foi, notamment le dogme de l'infaillibilité pontificale. Je vous lis ceci, saint Thomas d'Aquin toujours. Le schisme est aussi la voie de l'hérésie. C'est pourquoi saint Jérôme ajoute que le schisme, au début, peut bien, d'une certaine façon, être conçu comme différent de l'hérésie, mais il n'est aucun schisme, il n'est aucun schisme qui ne se forge pour lui-même quelque hérésie pour se persuader qu'il a bien fait de se séparer de l'Église. Le schisme s'oppose à l'unité de l'Église. Question de l'article 3. Les schismatiques ont-ils quelque pouvoir ? Il faut distinguer entre le pouvoir sacramentel et le pouvoir de juridiction. Je lis saint Thomas d'Aquin. Le pouvoir sacramentel est celui qui est conféré par une consécration. En raison même de son essence, demeure en celui qu'il a acquis par consécration le pouvoir sacramentel aussi longtemps que celui-ci reste en vie. S'égarerait-il dans le schisme ou dans l'hérésie ? Donc un prêtre schismatique, un prêtre qui était ordonné validement et qui devient schismatique, peut continuer à consacrer validement l'Eucharistie. C'est cela que dit saint Thomas d'Aquin en l'appliquant aux prêtres et à la messe. Par contre, celui qui est dans le schisme ou l'hérésie formelle, n'a plus le pouvoir de juridiction. Autrement dit, il ne peut plus exercer son pouvoir sacramentel légitimement. C'est pourquoi, dit saint Thomas d'Aquin, les schismatiques et les hérétiques ne peuvent ni absoudre, ni excommunier, ni donner des indulgences. S'ils le font, rien n'est fait. Retenez cela. Un schismatique ne peut pas excommunier. S'il le fait, il ne fait rien. Article 4 de la question 39, toujours. Est-il convenable de punir les schismatiques en les excommuniant ? Réponse. Celui qui pêche doit être puni. Or, le schismatique, ainsi qu'il ressort de ce que nous avons vu, pêche en deux choses. D'abord, en ce qu'il se sépare de la communion des membres de l'Église. Et pour cette raison, il est convenable que les schismatiques soient punis d'excommunication. Je passe à la question 82 de la tertiaire pars, à l'article 9. Peut-on licitement recevoir les sacrements, recevoir la communion de prêtres excommuniés, hérétiques ou pécheurs, et entendre la messe qu'ils célèbrent ? Réponse. Les prêtres qui sont hérétiques, schismatiques ou excommuniés, ou encore pécheurs, bien qu'ils aient le pouvoir de consacrer l'Eucharistie, n'en use pas régulièrement. Au contraire, il pêche en exerçant ce pouvoir. Or, quiconque communie avec autrui dans le péché partage à son tour son péché. On pêche si on entend la messe de schismatique, d'hérétique, d'excommunié, et si l'on reçoit deux. Bien, nous en venons donc, après cette préparation, si je puis dire, ce rappel de doctrine, ce survol des hérésies caractéristiques de l'Orient, et après cette étude du schisme par saint Thomas d'Aquin, nous en venons au sujet proprement dit de l'écuménisme à l'heure actuelle. Quel est le père officiel de l'écuménisme, le père officiel de cette curieuse conception du retour à l'unité? Évidemment, c'est le pape Paul VI. Des cardinaux, surtout italiens, ont voulu introduire la cause de canonisation du pape Paul VI. Il paraîtrait que celle-ci est arrêtée. Nous n'avons à juger aucune conscience. Nous ne pouvons apprécier que les faits, pas les consciences. Nous laissons les consciences à elles-mêmes, si je puis dire, à Dieu surtout. Nous nous contentons des faits. Je vous lis quelques réflexions au sujet du procès de canonisation du pape Paul VI, qui a été publié en 1993. En 1992, l'épiscopat italien, par un vote unanime, avait demandé l'introduction de la cause de Paul VI. Je vous lis quelques extraits du document. C'est un moment de joie particulière pour toute l'Église, qui a pu apprécier la valeur, non seulement doctrinale et pastorale, mais aussi le témoignage personnel de cette flamme que Dieu a fait monter vers lui. Depuis le candélabre du souverain pontife, flamme porteuse d'un extraordinaire rayonnement apostolique. La figure de Paul VI, loin de s'estomper dans la conscience et la mémoire de l'Église, se fait toujours plus vive, comme le montrent des manifestations de gratitude, de reconnaissance, d'admiration et de dévotion. Dans son travail apostolique et diplomatique, les épreuves parfois dures et cruelles ne furent pas absentes. Mais son esprit sacerdotal, son humilité, sa loyauté sans faille, les transformèrent en d'éclatantes occasions de vertu chrétienne et d'exemplaire conduite ecclésiastique et civique. Voilà ce que ce document dit entre autres. Eh bien, je vais vous lire le témoignage d'un connaisseur qui nous permet de douter de la loyauté du pape Paul VI. Il y a quelques années à Écône, est venu donner une conférence le professeur Fay, qui est mort maintenant, Dieu ait son âme. C'était en octobre 78. Et j'étais à Écône à ce moment-là. Et il a révélé beaucoup de choses très intéressantes. Je vous lis ce qu'il a rapporté. À Rome, il y a beaucoup de maçons. Et Vatican en est plein. Le professeur Fay avait été nommé par le maréchal Pétain pour poursuivre les francs-maçons. Et il a été, après la guerre, condamné à mort par les francs-maçons, mais il a réussi à s'échapper et puis on l'a laissé tranquille. À Rome, il y a beaucoup de maçons et Vatican en est plein. Benelli, sans doute, en est un. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a de bons évêques, mais il y a aussi, il faut le reconnaître, un patrouillage, un grenouillage. Comme aurait dit M. de Gaulle, un grenouillage de maçons extrêmement redoutable, très dangereux. Le pape Paul VI a été élu. Savez-vous comment ? Il était d'une famille radicale, la famille qui était propriétaire d'un journal du nord de l'Italie, la Stampa, le plus radical du nord de l'Italie. Paul VI, maintenant on le sait, c'est évident, avait malgré l'interdiction de Pie XII, alors qu'il était, Paul VI, sous-secrétaire d'État, continué à envoyer des messages hebdomadaires à Moscou. Pie XII l'avait interdit formellement. Et le pape Pie XII l'a su grâce à la découverte d'un homme que je connais et qui me l'a raconté. Monsieur Arnaud. C'était un policier. Le pape a trois policiers, un Français, un Italien, un Américain. Donc ce policier français avait été chargé par le pape d'aller chercher à Stockholm un sous-marin qu'il avait demandé qu'on lui prêta, pour aller sauver sous le port de Riga l'archevêque de Riga que les Russes avaient transformé en docker du port. L'archevêque était vieux, il en serait mort. Donc ce monsieur policier a été à Stockholm et on lui a dit qu'on pouvait faire cela pour lui. Et donc pour Pie XII. Et en effet, le sous-marin suédois a été à Riga et puis une nuit, on a enlevé le pauvre archevêque de Riga, on l'a ramené à Stockholm et ensuite à Rome. Les journaux n'en ont pas parlé. Or, étant à Stockholm, ce policier français du Vatican a reçu la question suivante du chef de police de Suède. Vous dites que le pape a interdit à ses services de communiquer avec Moscou, alors comment se fait-il que nous avons chaque semaine une lettre qui vient de Rome pour Moscou? Ah, dit le policier français, c'est impossible. Bien, dit le chef de police, voilà celle qui arrive de Rome pour Moscou. Vous la montrerez au Saint-Père. Ce monsieur l'a montré au Saint-Père. C'était une lettre du cardinal Monti. Donc vous voyez, ne jugeons pas les consciences, mais que voulez-vous? Eh bien, c'est le pape Paul VI qui est évidemment à l'origine du mouvement écuménique dans, je dirais, tout cela d'officiel, n'est-ce pas, du Vatican. Mais je vous lis quelques extraits du livre de M. Yves Chiron sur Paul VI. Dans son discours d'ouverture de la seconde session du Concile, en septembre 1963, Paul VI mit surtout en valeur l'orientation écuménique que devait prendre le Concile. Comme souvent, il procéda par une double affirmation. Il est nécessaire d'affirmer intégralement la foi catholique, mais dans le même temps, il faut reconnaître les richesses spirituelles qu'ont gardées les frères séparés. Une déclaration du pape fit également plaisir aux observateurs. L'Église avait dit le pape, doit demander pardon des offenses qu'elle a commises dans le passé et elle est prête à pardonner celles qu'elle a subies. Ce thème du pardon réciproque sera un des leitmotivs de la démarche écuménique de Paul VI. Et nous savons que le Saint-Père actuellement insiste beaucoup sur la nécessité dans laquelle l'Église se trouve de demander pardon aux autres. C'est dans la même ligne, bien sûr. Le 4 décembre 1963 eut lieu à la basilique Saint-Paul hors les murs, c'était donc à la fin du Concile, une cérémonie d'adieu pour l'observateur non catholique. Pour ceci, autant que pour l'Église catholique, le Concile Vatican II avait été un événement historique. En effet, le Concile a constitué pour l'Église un tournant à 180 degrés en direction de l'écuménisme. Ceci est dit par Hans Küng. Les communautés non catholiques se réclamant du Christ ont été reconnues comme des églises à part entière. Et dans tous les textes du Concile, on a été attentif à ne pas négliger leur position. En juillet 1966, le pape Paul VI fait remettre une lettre au patriarche orthodoxe de Constantinople, patriarche Athénagoras. Dans cette lettre, le pape Paul VI évoquait les églises orthodoxes et l'église catholique comme des églises sœurs, déjà en 1966. Ainsi que l'a remarqué un théologien écuméniste, un certain Lannes. Je cite Lannes dans son livre « Hommage à Paul VI ». Ce vocabulaire était neuf dans la bouche d'un pape, mais aussi la théologie qu'il suppose. Rome, ne se posait plus comme la mater, la mère, située au-dessus de toutes les églises, mais comme la sœur. Alors on arrive donc au concile maintenant, au décret sur l'œcuménisme. Unitatis Red Integratio, promulgué le 21 novembre 1964. Je vous lis quelques extraits de l'introduction pour vous donner l'état d'esprit. Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens, c'est l'un des buts principaux du Saint Concile œcuménique de Vatican II. Rappelez-vous l'expression de Pie XI, de Pie IX et celle de la tradition de l'Église par conséquent. L'Église catholique n'a pas perdu son unité. Il n'y a pas d'unité à restaurer dans l'Église catholique. Et si on parle d'unité du côté des autres, c'est qu'ils doivent réintégrer l'Église catholique et pas autre chose. Alors on a un nouveau concept, on parle d'unité entre tous les chrétiens. Restauration de l'unité entre tous les chrétiens, ce qui laisserait entendre que même chez nous, il n'y a plus cette unité. Du fait qu'il y a dissidence, nous souffrons dans l'unité, ce qui est faux. Rappelez-vous ce qui était au début, la dissidence ne fait de mal qu'aux dissidents, mais pas à ceux qui sont fidèles. À ce mouvement vers l'unité, qu'on appelle le mouvement œcuménique, prennent part ceux qui invoquent le Dieu Trinité et confessent Jésus pour Seigneur et Sauveur. Et il ne s'agit pas seulement de chrétiens pris un à un, il s'agit encore de chrétiens réunis en communauté dans lesquels ils ont entendu l'Évangile et qu'ils appellent leur Église et l'Église de Dieu. Mais ont-ils raison? Ont-ils un droit à appeler, je commente, leur communauté Église? Enfin, le document leur permet de s'appeler Église et même Église de Dieu. Presque tous, cependant, bien que de façon diverse, aspirent à une Église de Dieu, une et visible, vraiment universelle, envoyée au monde entier pour qu'il se convertisse à l'Évangile, pour que le monde se convertisse, et qu'il soit ainsi sauvé pour la gloire de Dieu. Ce document, l'introduction du décret, laisse entendre qu'il n'y a pas à l'heure actuelle l'Église universelle. Donc il n'y a pas l'Église catholique, car catholique veut dire universelle. Par conséquent, l'Église catholique ne serait pas vraiment l'Église de Jésus-Christ. Il y manquerait quelque chose. On suggère dans le document lui-même, au chapitre 3, au numéro 15, « Chacun sait avec quel amour les chrétiens orientaux célèbrent la Sainte Liturgie, surtout l'Eucharistie, source de vie pour l'Église et gage de la gloire céleste. » Alors, chrétiens orientaux, les catholiques, les schismatiques, et tout ça, c'est l'Église, voire leur Église. Est-il si vrai que cela, que les chrétiens orientaux célèbrent avec tant d'amour l'Eucharistie? On ne peut pas, évidemment, inférer d'un exemple à la généralité, mais parlons d'expérience, je dirais la mienne, très petite. Au début du séminaire, à Flavigny, nous avons reçu un prêtre catholique converti de l'orthodoxie schismatique. Il avait été ordonné prêtre dans l'orthodoxie, donc dans le schisme, et il s'était converti, et donc il était devenu catholique. Il a pris contact avec nous, et on nous l'a envoyé à Flavigny pour qu'il s'initie à Saint Thomas d'Aquin, il suivit les cours, et aussi pour qu'il apprenne à célébrer la Sainte Messe sous le rite traditionnel. Bien, ce prêtre, qui a passé environ 3 mois chez nous, n'a pas célébré un seul jour la Messe. Peut-être c'était mieux, mais enfin, je ne peux pas dire qu'il avait un grand amour de la Sainte Messe. Du moins, ce n'était pas visible. Puisque ces églises, bien que séparés, donc il s'agit là maintenant des schismatiques, ont de vrais sacrements, surtout en vertu de la succession apostolique, le sacerdoce et l'Eucharistie, qui les unissent intimement à nous, une certaine communicatio in sacris, dans les circonstances favorables et avec l'approbation de l'autorité ecclésiastique, est non seulement possible, mais même recommandable. Voilà un passage intéressant et même extrêmement choquant. Rappelez-vous ce que saint Thomas d'Aquin disait, je vous l'ai lu, si les schismatiques ont le pouvoir sacramentel, ils n'ont pas le droit d'exercer. Là, on leur reconnaît le droit d'exercer ce pouvoir. On parle de succession apostolique. Je vous ai rappelé au début que si l'on parle d'apostolicité, il faut retenir la légitimité. Or, ces évêques schismatiques qui peuvent bien remonter à un apôtre n'y remontent pas dans la légitimité. Donc, ils n'ont pas la succession apostolique au sens plein du terme. Et cependant, le document officiel, le décret du Concile Vatican II, leur reconnaît à part entière cette succession apostolique qu'ils n'ont pas. Et on nous dit donc qu'il est même recommandable, dans les circonstances favorables, de pratiquer une communicatio in sacris, autrement dit, de partager l'usage des sacrements. On conseille donc désormais, au moins dans certaines circonstances, à ce que les catholiques assistent à des cérémonies célébrées chez les schismatiques et y communient sans doute. Eh bien, je vous lis la discipline traditionnelle sur cette communicatio in sacris. C'est l'ancien code, celui qui fait vraiment référence sur ce point-là et que nous suivons. Sur le sujet communicatio in sacris, canon 1258, paragraphe 1. Il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, au rite sacré des non-catholiques. Commentaire du Père Naz pour l'Eucharistie. Un catholique ne doit pas assister à la messe d'un prêtre hérétique ou schismatique, même un jour de fête de précepte, où il ne peut entendre la messe d'un prêtre catholique. Pour les derniers sacrements, donc pour l'extrême onction, par dérogation au principe qui interdit aux fidèles de recevoir les sacrements d'un ministre hétérodoxe, il leur est permis, en l'absence d'un prêtre de leur religion, donc catholique et du rite où ils sont, de recevoir en danger de mort l'absolution d'un prêtre hérétique, mais à condition qu'il y ait probabilité qu'elle leur soit donnée selon le rite catholique. Pourquoi l'Église permet cela? Parce que l'Église est maternelle et que pour le salut, elle permet certaines choses, elle ecclesia souplette quant au défaut de juridiction. Canon 1258, paragraphe 2. Le paragraphe 1, donc, interdisait l'assistance active au rite sacré des non-catholiques. Assistance à la messe en répondant, en chantant, en communion. Paragraphe 2, même canon. La présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d'un culte hétérodoxe peut être tolérée pour un motif d'honneur à rendre ou d'obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l'appréciation de l'ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et aux mariages des non-catholiques, ainsi qu'aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger de perversion et de scandale soit écarté. Et il faut un motif sérieux, et s'il y a doute, il faut recourir à l'ordinaire. La participation des dissidents au culte catholique ne doit jamais être admise qu'avec réserve. Voyez donc comment le document conciliaire sur l'écuménisme va à l'encontre de la pratique traditionnelle de l'Église sur la communicatio in sacris. Je vous disais que le pape Paul VI était comme le père officiellement de l'écuménisme moderne. C'est lui qui a levé l'excommunication fulminée sur la communauté schismatique de Constantinople, disons les orthodoxes au sens général du terme. Et cela s'est passé en 1965, le 7 décembre. Ce qui n'était pas admissible, c'est de reconnaître l'excommunication de l'Église, de la communauté orthodoxe. Saint Thomas d'Aquin nous disait, et voilà pourquoi je vous l'ai lu, que le schismatique ne peut pas excommunier. Or, si, après le schisme de Michel Cérulaire, les orthodoxes ont excommunié le pape, leur excommunication n'avait aucune valeur. Saint Thomas d'Aquin dit, ils ne font rien. Rien, c'est rien. Comment voulez-vous reconnaître l'être de rien? Déclaration commune du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras de Constantinople, le 7 décembre 1965. On rappelle un peu l'histoire. Parmi les obstacles qui se trouvent sur le chemin du développement de ces rapports fraternels de confiance et d'estime, figure le souvenir des décisions, actes et incidents pénibles qui ont abouti en 1054 à la sentence d'excommunication portée contre le patriarche Michel Cérulaire et deux autres personnalités par les légats du siège romain conduits par le cardinal Humbert. Légats qui furent eux-mêmes ensuite l'objet d'une excommunication analogue de la part du patriarche et du synode constantinopolitain. Le pape Paul VI reconnaît donc cette sentence qui n'est rien. C'est pourquoi le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier en son synode déclarent d'un commun accord regretter les paroles offensantes, les reproches en fondement et les gestes condamnables qui, de part et d'autre, ont marqué ou accompagné les tristes événements de cette époque. Je vous ai dit au début que le Saint-Siège n'avait rien à se reprocher dans les excommunications. Or ici, on considère que les torts sont 50-50. Regretter également et enlever de la mémoire et du milieu de l'Église les 100 ans d'excommunication qui les ont suivis. Donc on reconnaît que de part et d'autre, ces 100 ans étaient valables. Déplorer enfin les fâcheux précédents et les événements ultérieurs qui, sous l'influence de divers facteurs, parmi lesquels l'incompréhension et la méfiance mutuelle, ont finalement conduit à la rupture effective de la communion ecclésiastique. Donc les parts seraient partagées, les torts seraient partagés. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai. Et dans donc ce document, comme dans la bulle, on équipare le pape de l'Église romaine et le concile avec le patriarche de Constantinople, donc schismatique, et son synode, comme deux entités qui sont égales. Eh bien, voyez-vous, ça c'est le début de l'officialité dans ce domaine. Et les choses depuis ont avancé, bien sûr. Je parle du terme Église. Le terme Église, c'est communément admis maintenant pour l'Église catholique et pour les autres dans le langage. Et lorsqu'on parle d'Église tout court, on ne sait plus de quoi il s'agit. Je vous lis la lettre du cardinal Edvard Idriss Cassidy donnant les directives de la commission pontificale pro-Russia en 1992. Des représentants de l'Église orthodoxe se sont plaints en diverses occasions de ce que certains cercles de l'Église catholique feraient du prosélytisme parmi les orthodoxes de l'Europe de l'Est, et en particulier en Russie, dans le contexte d'un effort de nouvelle évangélisation. Donc on prend en compte ce reproche des orthodoxes. Alors on arrive à ce décret incroyable sur l'uniatisme. Le titre, l'uniatisme, méthode d'union du passé et la recherche actuelle de la pleine communion. Document qui était publié en août 93 dans la documentation catholique et qui date du mois de juin 93. Un document qui est le document dit de Balaman, Balaman étant une bourgade du Liban. Au sujet de la méthode qui a été appelée uniatisme, donc l'uniatisme, c'est un terme péjoratif pour dire le retour à l'Église catholique de communautés schismatiques qui deviennent donc catholiques uniates. C'est très bien. Eh bien, pour dévaloriser la chose et pour en finir avec elle, on l'appelle uniatisme. Vous savez que pour supprimer, je dirais, des notions et pour empêcher une efficacité dans ce domaine-là, on se moque par des mots choisis. Au sujet de la méthode qui est appelée uniatisme, il a été déclaré à Freising, une réunion en juin 90, que, citation, « Nous la rejetons comme une méthode de recherche d'unité parce qu'opposée à la tradition commune de nos églises, catholiques, orthodoxes. » Or, c'était la méthode d'unité dont parlait Pie IX, dont parlait Pie XI. Eh bien, celle-ci est à rejeter. Durant les quatre derniers siècles, en diverses régions de l'Orient, des initiatives ont été prises de l'intérieur de certaines églises ou sous l'impulsion d'éléments extérieurs pour établir la communion entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Ces initiatives ont conduit à l'union de certaines communautés avec le siège de Rome, très bien, et ont entraîné comme conséquence la rupture de la communion avec leurs églises mères d'Orient, très bien aussi. Enfin quoi? Si des schismatiques se convertissent au catholicisme, c'est très bien, évidemment, désormais, ils sont en rupture avec l'église, entre guillemets, schismatique, c'est évident. Ainsi sont nées des églises orientales catholiques, uniates, et s'est créée une situation qui est devenue source de conflits et de souffrances, d'abord pour les orthodoxes, mais aussi pour les catholiques. Et c'est normal. Enfin quoi? Quand on se convertit, on a fait la croix. La souffrance, c'est normal. Non, c'est considéré comme dommageable. À cause de la manière dont catholiques et orthodoxes se considèrent à nouveau dans leur rapport au mystère de l'Église et se redécouvrent comme Église sœur. Rappelez-vous donc que le mot « est » de Paul VI, ou officiellement. Cette forme d'apostolat missionnaire décrite ci-dessus et qui a été appelée uniatisme ne peut plus être accepté ni en tant que méthode à suivre, ni en tant que modèle de l'unité recherchée par nos églises. Donc maintenant, c'est tout à fait nouveau. Autre chose, le concept de l'unité est tout à fait différent. Ce n'est plus celui de la tradition. La redécouverte et la remise en valeur, tant par les orthodoxes que par les catholiques, de l'Église comme communion, ont changé radicalement les perspectives et donc les attitudes. De part et d'autre, on reconnaît ce que le Christ a confié à son Église. On reconnaît que ce que le Christ a confié à son Église ne peut être considéré comme la propriété exclusive d'une de nos Églises. Donc, l'Église catholique ne peut pas prétendre être totalement et uniquement elle, l'Église du Christ. Elle n'a pas tout. Elle n'a pas toute la foi. Elle n'a pas tous les sacrements. Elle n'a pas le droit de diriger les âmes exclusivement vers le salut. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique et l'Église orthodoxe se reconnaissent mutuellement comme Église sœur, responsables ensemble du maintien de l'Église de Dieu dans la fidélité au dessein divin, tout spécialement en ce qui concerne l'unité. Donc, au-dessus de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe, il y a une Église de Dieu. Et ça, c'est la véritable Église. Inadmissible. Dans l'effort pour établir l'unité, il ne s'agit pas de rechercher la conversion des personnes d'une Église à l'autre pour assurer leur salut. Et l'Église est missionnaire, je vous l'ai dit au début. Cela, évidemment, contredit cette vérité de foi. Dans cet esprit, le pape Jean-Paul II et le patriarche œcuménique Dimitrios Ier ont précisé ensemble, c'était déjà en 1987, « Nous rejetons toute forme de prosélytisme, toute attitude, qui serait ou pourrait être perçue comme un manque de respect. Chercher à convertir un orthodoxe, c'est lui manquer de respect par conséquent. » Voilà ce qui est dit. Et c'est fini. Le pape Jean-Paul II et le patriarche œcuménique Dimitrios Ier. Numéro 22. L'action pastorale de l'Église catholique, tant latine qu'orientale, ne tend plus à faire passer les fidèles d'une Église à l'autre, c'est-à-dire ne vise plus au prosélytisme parmi les orthodoxes. Elle vise à répondre aux besoins spirituels de ses propres fidèles et n'a aucune volonté d'expansion aux dépens de l'Église orthodoxe. Eh bien, c'en est fini de la mission de l'Église catholique, si c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça en vérité, bien sûr. Ce n'est pas comme ça que Jésus-Christ a voulu, bien sûr. Mais s'ils veulent faire comme ça, c'est fini. Numéro 28. La foi dans la réalité sacramentelle implique que l'on respecte toutes les célébrations liturgiques des autres églises. En certaines circonstances, on doit faciliter la célébration des autres églises en mettant sa propre église, donc le lieu, à leur disposition par un accord permettant de célébrer alternativement à des temps différents dans le même édifice. Donc, un bâtiment pour les cérémonies orthodoxes et catholiques. Voilà ce qui est favorisé. Tous doivent être informés de la succession apostolique de l'autre Église et de l'authenticité de sa vie sacramentelle. Ce qui contredit l'enseignement traditionnel sur le sujet et même au sujet de l'authenticité de la vie sacramentelle. Je vous lis un extrait d'un article paru dans la revue Certitude, qui est réalisé par notre confrère l'abbé de Tannouarn. Un très bon article sur la diplomatie vaticane contre l'Ukraine catholique. C'est là qu'on y apprend, n'est-ce pas, l'existence de cette communauté catholique des sœurs basiliennes de la mère Lubov. Tenez, je vous lis ça, ça va vous détendre. Lvov, capitale de l'Ukraine occidentale, dans un faubourg sordide et crasseux, comme savait en produire la société communiste. C'est là que vivent 70 religieuses basiliennes. Elles sont regroupées autour de leur supérieure mère Lubov. Il y a des femmes qui imposent naturellement le respect mère Lubov et de celle-ci. Son histoire n'est pas banale. Elle n'a jamais vraiment vécu que dans la persécution. Rentrée chez les basiliennes pendant la période soviétique, elle a vécu clandestinement. Ouvrière le jour, religieuse la nuit, elle a été arrêtée, mise en prison, où elle est restée plusieurs jours sans être nourrie. C'est donc avec une immense espérance qu'elle a vu la chute du régime athée. Pourtant, très vite, elle s'est aperçue que le temps des persécutions n'était pas encore fini. Au premier chapitre général de son ordre, la supérieure canadienne donne les lignes de la reprise en main, fin de l'habit traditionnel, plus de communion à genoux, changement dans la règle, transformation œcuménique dans la liturgie. Pour mère Lubov, c'est le déchirement. Elle qui s'est battue pour pouvoir porter son habit, voilà qu'on lui donne, on lui ordonne de l'abandonner. Elle qui a souffert pour pouvoir célébrer la divine liturgie, autrement qu'en cachette dans les bois et les caves, voilà qu'il faut maintenant la changer pour l'aligner intégralement sur la liturgie orthodoxe. Elle n'a pas cédé devant la terreur marxiste, elle ne cédera pas devant le totalitarisme clérocratique. Depuis 2 ans, Mère Lubov est entrée en rébellion contre son ordre et depuis peu de temps, Mgr Bernard Felet, son Excellence, a reconnu la communauté de Sœur Lubov. Eh bien, dans cet article, on lit aussi ceci. Tout ça pour mettre un bémol sur cette affirmation, à savoir, n'est-ce pas, de l'authenticité de la vie sacramentelle chez les orthodoxes. Le patriarcat de Moscou, par exemple, qui était aux ordres du KGB, au point qu'il fallait donner son nom et son adresse en confession, comptait parmi ses membres des évêques non ordonnés, membres du KGB. Ce qui, contrairement à ce qu'affirme la déclaration, article 30, que je vous ai lu, pose de réels problèmes quant à la validité des sacrements chez ces orthodoxes. Monseigneur Lubetchinsky, le patriarche catholique ukrainien, le signale d'ailleurs dans sa lettre d'août 1994. C'est sûr que la situation n'est pas nette. Et pourtant, on affirme que tous doivent d'abord être informés de la succession apostolique de notre Église et de l'authenticité de sa vie sacramentelle. À la fin de l'article numéro 35, c'est le dernier, en excluant pour l'avenir tout prosélytisme, on insiste, et toute volonté d'expansion des catholiques aux dépens de l'Église orthodoxe, la Commission espère qu'elle a supprimé l'obstacle qui a poussé certaines églises autocéphales à suspendre leur participation au dialogue théologique et que l'Église orthodoxe pourra se retrouver au complet pour continuer le travail théologique si heureusement commencé. Balaman, Liban, le 23 juin 1993. Je vous donne une application très concrète de ce document et évidemment même aussi des documents plus officiels signés par le Saint-Père lui-même. Quand le pape parle, par exemple, d'un martyrologe écuménique, n'est-ce pas, et d'une commune confession de la foi et de la charité de part et d'autre. Eh bien, le fameux père Werenfried, connu parce qu'il s'est présenté comme le défenseur de l'Église en détresse sous le joug communiste. Voilà ce qu'il écrivait dans sa lettre du 15 novembre 1994, c'est quand même récent. Encouragé par sa sainteté le pape, avec l'approbation explicite du patriarche de Moscou, nous aidons notre Église sœur en lui procurant de la littérature théologique et catéchétique et en lui assurant des subsides pour la subsistance et la formation des séminaristes orthodoxes. C'est un comble, ça. Au lieu de considérer l'ancienne Union soviétique comme une sorte de domaine colonial pour conquête spirituelle, à l'instar de nombreuses sectes, nous voulons conforter l'Église orthodoxe pour qu'elle puisse réévangéliser et reconquérir pour la foi chrétienne ces régions dérobées à Dieu. C'est pourquoi nous avons décidé d'offrir à tous les évêques orthodoxes en Russie qui le souhaitent une aide financière dont les catholiques quittent maintenant pour venir aider l'apostolat des schismatiques. Application très concrète, évidemment. Alors, le temps a passé, mais je voudrais vous montrer aussi que cela avance. Et la reconnaissance de Rome, n'est-ce pas, ces communautés-là. Je vous ai parlé au début des hérésies, dont l'hérésie de Nestorius, le nestorianisme, qui considérait qu'il avait en Jésus-Christ deux natures et deux personnes, alors qu'il y a deux natures, certes, mais qu'une seule personne. Eh bien, désormais, tout ça. Et c'est un document officiel, un document qui est signé, bilatéral, signé par le pape Jean-Paul II, donc le Saint-Père, et puis le représentant de cette église nestorienne, assyrienne d'Orient, Mar Dinka IV, document signé des deux parties en novembre 1994. Aussi notre Seigneur Jésus-Christ est-il vrai Dieu et vrai homme, parfait dans sa divinité et parfait dans son humanité, consubstantiel au Père et consubstantiel à nous en toutes choses, à l'accession du péché. Sa divinité et son humanité sont unies en une personne unique, sans confusion ni changement, sans division ni séparation. Pour cette raison, donc on reconnaît tout ça, l'Église assyrienne d'Orient élève ses prières à la Vierge Marie en tant que Mère du Christ, notre Dieu et Sauveur. À la lumière de cette même foi, l'Église catholique s'adresse à la Vierge Marie comme Mère de Dieu. L'Église nestorienne de Mar Dinka IV refuse de dire Mère de Dieu. D'accord pour la Christotokos, pas d'accord pour la Théotokos. Ça n'a pas changé. Nous reconnaissons la légitimité et les attitudes de ces expressions de la même foi et nous respectons la préférence que chaque Église leur donne dans sa vie liturgique et dans sa piété. Telle est l'unique foi que nous professons dans le mystère du Christ. Les controverses du passé ont conduit à des anathèmes prononcés envers des personnes ou des formules. L'Esprit du Seigneur nous accorde de mieux comprendre aujourd'hui que les divisions qui se sont produites étaient dues dans une large mesure à des malentendus, dont ce qui a été déclaré hérétique à l'époque, au Concile d'Éphèse en 431, s'était fondé sur des malentendus. Que des principes pareils, la communion apparente est facile, elle va vite. Or, si vous connaissez un peu le schisme du nestorialisme, n'est-ce pas, vous aurez compris ceci. C'est le père Jacquin qui l'étudie dans son livre d'histoire. Je ne sais pas, Jacquin est un dominicain. C'est rare que les dominicains fassent des livres d'histoire. Et donc, quand ils en font un, évidemment, on y trouve beaucoup de théologie. Je vous lis ce que dit le père Jacquin au sujet du nestorianisme. L'erreur des nestoriens apparaît moins en ce qu'ils affirment qu'en ce qu'ils nient. Pourquoi refusez-vous toujours la formule théotokos? Je vous ai parlé aussi, oui, du monophysisme. Le monophysisme, cette hérésie, et qui donc absorbe l'humanité dans la divinité. Mono, c'est seul, n'est-ce pas? Donc, il n'y a qu'une seule nature en Jésus-Christ. Eh bien, il semble aussi que les choses sont maintenant très, très en ordre avec cette communauté schismatique et hérétique monophysiste. Elle est représentée aujourd'hui par Shenouda III, n'est-ce pas ? Et un document officiel a été signé par le pape Jean-Paul II. De plus, nous pouvons aujourd'hui affirmer que nous avons la même foi dans le Christ, même si pendant longtemps, ce sujet fut une source de division entre nous. Bien que nos traditions aient employé des formules différentes pour exprimer le même mystère ineffable de l'union de l'humanité et de la divinité dans le Verbe fait chair, nos deux églises sont en plein accord avec la foi apostolique. Confesse à la fois la distinction et la complète union de l'humanité et la divinité dans la personne. Donc, nous sommes très bien. Eh bien, je vous lis maintenant l'interview de ce pape, entre guillemets, de l'église monophysite, copte, Shenouda III. J'ai sous les yeux un article paru dans ce journal de gauche, Croix l'événement, n'est-ce pas, c'est le catholicisme de gauche au quotidien, en février 1995. On questionne donc Shenouda III sur ce qui nous sépare. Quelles sont vos relations avec l'Église catholique ? Réponse. Je me suis rendu au Vatican en 1973 et j'ai rencontré le pape Paul VI. Nous avons rédigé une déclaration relative à nos points communs en matière de doctrine. Une commission de théologiens a été formée pour étudier les points de désaccord, malheureusement nombreux. Le purgatoire, donc il ne croit pas au purgatoire. Certaines questions concernant la Vierge Marie, le filioque, ils n'admettent pas que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Nous admettons le divorce en cas d'adultère, nous refusons la primauté de Rome. C'est quand même beaucoup. Mais pourquoi s'étendre sur ce sujet? Eh bien, écoutez. Voilà ce que le pape Paul VI disait au même Shenouda III il y a 20 ans, en 1973. C'est une formule qui a été donc signée par les deux parties. Unité de foi, diversité d'administration. Unité de foi, ils ne sont pas pour le filioque, ils refusent le purgatoire. Il y a des questions, n'est-ce pas, sur la Vierge Marie qu'ils n'admettent pas. Ils refusent la primauté du pontife romain et on dit pourtant unité de foi et diversité d'administration. Évidemment, c'est facile avec ça. De se trouver d'accord, c'est facile. Eh bien, ce Shenouda III est trouvé dans notre pays, pauvre pays s'il en est, bien sûr, comme vous savez, et il est venu pour consacrer une église. C'était la foule des grands jours, dimanche, c'était donc en février 1995, n'est-ce pas? Je pense donc le 13 février, dans le département des Hauts-de-Seine, à Châtenay-Malabry exactement, pour la consécration de l'église Sainte-Marie et Saint-Marc, l'église Sainte-Marie et Saint-Marc, consacrée donc par cet hérétique, sympathique par ailleurs, par beaucoup de côtés d'ailleurs, vendue par le diocèse catholique de Nanterre à la communauté copte orthodoxe chez nous d'Atroix, est venue conforter une communauté très ébranlée par les assauts islamistes en Égypte. C'est sûr que l'islam les persécute beaucoup. Monseigneur Gérard Daucourt, président de la commission épiscopale pour l'unité des chrétiens, lui a remis un message de Monseigneur Joseph Duval. Votre visite ravive l'espérance de la pleine communion entre nos deux églises apostoliques. Ben c'est ça. Voilà aujourd'hui donc cette unité facile, bon marché. Mais pour terminer, je vais vous lire un extrait, un texte qu'on ne peut comprendre évidemment qu'avec toute la théologie, mais on en a fait quand même ce soir, même si on a rappelé beaucoup d'erreurs. C'est justement ce texte du Concile de Chalcédoine contre Nestorius qui refuse la théotokos, que Marie soit mère de Dieu, admettant seulement que sa mère du Christ, parce qu'il distingue l'homme et le Dieu en Jésus-Christ, tellement, n'est-ce pas, qu'il les sépare. Et un très beau texte. Suivant donc les saints-pères, nous enseignons tous unanimement qu'il faut confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, parfait en divinité et parfait en humanité, Dieu vraiment et homme vraiment, le même composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et consubstantiel à nous selon l'humanité, semblable à nous en tout hors le péché, engendré du Père avant les siècles en sa divinité et à la fin des jours né de la Vierge Marie, Mère de Dieu, pour nous et pour notre salut en son humanité. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, en deux natures, sans confusion ni changement, sans division ni séparation. Car l'union n'a pas supprimé la différence des natures, mais chacune d'elles a conservé son caractère propre et s'est rencontrée avec l'autre en une unique personne et hypostase. Et Jésus-Christ n'est pas partagé ou divisé en deux personnes, mais nous confessons un seul et même Fils, Fils unique, Dieu, Verbe, Seigneur Jésus-Christ, comme les prophètes autrefois l'ont annoncé, comme Jésus-Christ lui-même l'a enseigné, et comme le symbole des Pères nous l'a transmis. Amen et merci de votre attention. Y a-t-il des questions? Alors, je vous remercie de votre présence. Priez pour les séminaristes. Priez aussi pour ceux de Favigny, pour les nôtres. J'ai avec moi deux des miens. Si je peux dire, deux jeunes, ils sont en seconde année. Ils sont venus m'aider pour un travail de correction d'un ouvrage, là. Ils ont bien travaillé. Alors, je vous demande de prier pour eux, afin qu'ils soient de bons séminaristes, et de prier aussi pour que nous ayons beaucoup de vocations, car nous avons vraiment besoin de prêtres. Missio omnipotentis, Patris et Filii Sancti, Scienso per vos et Magnat Semper. Amen.